serpent. Elle me confie son pied nu comme à une sœur. Il est fin, petit, menu, bref, sans épaisseur. Je le respire, je le flaire, enfin je l'allume. Je voudrais mettre sous verre ce qui le parfume. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. Jamais eu au chat beauté cette démangeaison, cette envie de bécoter en 15 ans de maison. Je repousse l'idée sotte, l'idée saugrenue, l'idée de proposer la botte à cet inconnu. Quand soudain le carillon annonce la nuit, et pareil à Cendrillon, la fille s'enfuit, me laissant désappointer, la mule à la main. Elle s'enfuit du chaboté, passe son chemin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. Je me faufile dans la réserve, j'entrouvre la boîte. Tout le parfum que conserve la pantoufle droite me traverse les narines, dilate mon cœur, me réchauffe la poitrine comme une liqueur. Moi qui avais le bourdon, j'ai la chair de poule, et même la chair de dindon quand j'éteins l'ampoule. Il me semble être avec elle, elle à mes côtés. Je rêve d'une vie nouvelle, loin du chaboté. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui est le deuxième lundi du mois, 19h30, et c'est l'autre voix de l'Amérique, Philippe Diaz au micro. Ce soir, la première partie sera consacrée aux nouvelles de l'enfer créées par les États-Unis et son partenaire Israël, et il s'agrandit de jour en jour. Pour le reste de l'émission, notre invité sera Pierre-Olivier Poyard, que je vais vous présenter dans un moment. Tout d'abord, les différentes guerres d'Israël et des États-Unis au Liban et bien sûr toujours à Gaza. Contraint de suivre Trump qui a décrété une trêve en Iran, Netanyahou amplifie ses opérations militaires dans le sud du Liban, violant régulièrement le soi-disant cessez-le-feu. Le 26 mai, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes dans le sud du Liban, y faisant 31 morts, dont au moins 4 enfants et 3 femmes, et a appelé à l'évacuation d'une quarantaine de villages. Plus de 600 personnes ont été tuées dans des attaques israéliennes depuis l'entrée en vigueur de cette prétendue trêve, mais cette fois-ci, elles s'inscrivent dans le contexte plus large d'une opération menée par l'armée israélienne au Liban. Nous ne freinons pas, au contraire, j'ai demandé à accélérer, a déclaré Netanyahou dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Telegram. Israël a bombardé la ville de Tyr après avoir déclaré zone de combat une vaste partie du sud du Liban. À Bin Jebel au Liban Sud, après la destruction du cadastre, les Israéliens sont en train d'effacer la mémoire des lieux, de transformer l'aspect et la géographie. L'échelle des destructions par l'armée israélienne rend la ville méconnaissable et la perte d'actes fonciers et de titres de propriété annule définitivement le droit des Libanais à leurs terres, ce qui fait partie de la stratégie israélienne. Située à environ 6 km de la frontière avec Israël, Bin Jebel a été détruite à plus de 75% et est désormais comparée à la bande de Gaza en raison de l'ampleur des ruines. La ville se trouve dans le périmètre que l'État hébreu occupe dans le sud du pays et qui représente près de 6% du territoire libanais. Israël y a unilatéralement décrété une zone de sécurité et en interdit l'accès. Cette ville chiite de 30 000 habitants fait partie de la stratégie d'effacement. Maintenant, l'armée israélienne appelle à l'évacuation de la banlieue sud de Beyrouth, ce qui laisse présager le pire. Le ministère de la Santé libanais fait état de près de 3 500 morts depuis le début mars. D'après des membres de son entourage, Trump s'en est pris violemment à Netanyahou en ce qui concerne l'escalade disproportionnée opérée ces derniers jours, avec un nombre croissant de victimes civiles et des bâtiments entiers rasés. Il aurait accusé Netanyahou de mettre en péril les négociations américaines avec l'Iran et aurait exigé qu'Israël renonce à une frappe prévue sur Beyrouth. Il aurait dit à Netanyahou « Tu es complètement fou, tu serais en prison sans moi, je te sauve la mise, tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça ». Et c'est la même chose à Gaza où Netanyahou a déclaré avoir ordonné à l'armée israélienne de prendre le contrôle de 70% du territoire. Lors d'une interview accordée durant une conférence en Cisjordanie occupée, Netanyahou a affirmé qu'Israël renforçait son emprise sur Gaza. Il a dit, je cite, « Nous contrôlons désormais 60% du territoire de la bande de Gaza. Nous étions à 50%, nous sommes passés à 60%. Ma directive est de progresser étape par étape en commençant par les 70%. Commençons par là. » Pendant son discours, l'Assemblée composée de ses supporters a réclamé la prise de contrôle de la totalité du territoire de Gaza. La prise de contrôle de 70% de Gaza contraindrait environ 2 millions de Palestiniens à se réfugier dans une fraction toujours plus réduite du territoire. Il faut rappeler qu'au terme de l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2025, conclu entre Israël et le Hamas, les forces israéliennes se sont retirées jusqu'à une ligne de démarcation, dite ligne jaune, qui les laisse sous contrôle d'environ 53% de Gaza. Le Hamas a donc accusé Israël de déplacer cette ligne, affirmant que cela constitue une atteinte explicite et continue à l'accord de cessez-le-feu, une violation grave de ses dispositions et une tentative manifeste d'imposer par la force une nouvelle réalité sur le terrain, dans le but de consolider son contrôle militaire sur la bande de Gaza et de compromettre toute chance réelle de stabilisation de la situation ou de réussite des efforts de désescalade. Israël et le Hamas sont censés respecter les termes de l'accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis, entrée en vigueur en octobre. Cependant, la mise en œuvre de ce plan promis par Trump est au point mort, faisant craindre une division permanente du territoire de Gaza. Nikolai Mladenov, diplomate bulgare chargé de la mise en œuvre de l'accord, a averti en début de mois que, sans progrès, la ligne jaune pourrait se transformer, je cite, « en clôture ou en mur, marquant une séparation permanente de Gaza ». Fin de citation. Selon le ministère palestinien de la Santé publique, ces frappes ont fait plus de 850 morts à Gaza depuis le début du cessez-le-feu. Plus tôt ce mois-ci, Israël a assassiné Izz al-Din al-Haddad, chef de la branche armée du Hamas. 11 jours plus tard, son successeur a été assassiné lors d'une nouvelle frappe. Netanyahou a clairement appris de Trump le non-respect du droit international ou de la souveraineté des peuples. Tout cela intervient au moment où Israël a été ajouté à la liste de l'ONU sur les violences sexuelles dans les conflits. En réponse, Israël a suspendu ses relations avec le secrétaire général des Nations Unies. Même si cela n'est pas directement lié, car cette mesure est en route depuis de nombreux mois, des membres australiens de la flottille Global Sumud en route pour Gaza ont accusé les forces israéliennes de viol, d'agression sexuelle, de coups, d'humiliation et de torture après avoir été détenus et expulsés. Auparavant, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, avait personnellement publié des images des militants de la flottille détenus, agenouillés et les mains liées après l'interception du convoi humanitaire par Israël. Dans une vidéo, on le voyait agiter un drapeau israélien et narguer les détenus, leur lançant « Bienvenue en Israël, nous sommes les propriétaires ». Ben Gvir, qui supervise le système pénitentiaire israélien, est un des artisans de la loi prévoyant la peine de mort par pendaison pour des personnes accusées de terrorisme. Il a affirmé que les détenus palestiniens ne devraient recevoir que le strict minimum en matière de nourriture et a nié catégoriquement l'existence d'une nation palestinienne. En novembre, il a déclaré qu'il n'existe pas de peuple palestinien. Pour continuer dans le registre de la torture, un Palestinien a déclaré avoir été enfermé pendant plus de 2 semaines dans une sorte de cercueil par les forces israéliennes après avoir refusé de devenir leur informateur. Imam Nabhan a expliqué avoir été détenu dans un conteneur en fer contenant une boîte en bois, les mains et les pieds liés. Il a affirmé que durant sa détention, le personnel israélien le nourrissait par une ouverture et ne le laissait sortir qu'une minute lorsqu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Il a dit, je cite, « J'avais l'impression qu'il voulait me faire croire que j'étais mort pour obtenir les informations qu'il recherchait. Je suis resté enfermé dans ce cercueil pendant 15 jours, j'avais le sentiment d'être vivant dans un corps sans vie. » Rappelons que la technique du cercueil a été largement utilisée à Guantanamo contre les détenus venant du Moyen-Orient. Et cette folie s'étend à d'autres pays. Le streamer politique américain de gauche Hassan Piker, critique virulent d'Israël, affirme cette revue interdire l'entrée au Royaume-Uni après que des députés et des organisations juives ont exhorté le gouvernement à révoquer son visa. Piker, qui compte 3 millions d'abonnés sur Twitch et 2 millions sur YouTube, devait prendre la parole au festival South by Southwest de Londres jeudi. Dans un message publié sur X dimanche, il a déclaré que son visa avait été révoqué à la demande d'Israël. Il a ajouté, je cite, « L'Occident trahit les valeurs libérales pour un gouvernement étranger, fasciste et génocidaire. J'ai été banni pour avoir critiqué Israël. Sommes-nous encore libres ?» Fin de citation. Lors d'une diffusion en direct ultérieure, il a déclaré que le gouvernement britannique le considérait comme une menace sérieuse pour l'ordre public. Pourquoi pas ? Et maintenant, regardons du côté des grands groupes de la tech américaine qui sont, comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes, impliqués jusqu'au cou dans les guerres israélo-américaines. Anthropic, l'entreprise américaine d'intelligence artificielle, éditrice du chatbot Claude, a annoncé jeudi 28 mai une nouvelle levée de fonds de 65 milliards de dollars, portant sa valorisation à 965 milliards. Comme quoi la guerre profite de manière inespérée. Après la conclusion de cette levée, la start-up voit ainsi sa valorisation tripler en 3 mois, alors qu'elle était de 380 milliards en février. Le chiffre d'affaires annualisé, une extrapolation sur 12 mois des revenus récents de l'entreprise, a franchi le seuil de 47 milliards de dollars contre 14 milliards lors de sa levée en février. Vous avez bien entendu, 47 milliards par an. Anthropic vient de signer des accords récents portant sur plusieurs gigawatts de capacité avec Amazon, Google et Broadcom, ainsi qu'un partenariat très remarqué avec SpaceX, le groupe d'Elon Musk. Mettant de côté ses critiques acérées d'Anthropic, ce qu'il appelait auparavant « misanthropic » à cause de son refus de laisser ses programmes utilisés dans les bombardements sans contrôle humain, Musk a donné pour 1 milliard un quart de dollars par mois l'accès à son centre de données Colossus One à Memphis dans le Tennessee. Il est clair que toutes ces sociétés ne visent qu'une chose, leur entrée en bourse, accroissant encore et de manière exponentielle leur capitalisation, comme nous allons le voir dans un moment. Il est amusant de noter que cela intervient après l'intervention au Vatican, à côté du pape, du jeune Christopher Holla, milliardaire cofondateur d'Anthropic. Il a déclaré, je cite, « Je voudrais commencer par une remarque qui peut paraître étrange venant du cofondateur d'une entreprise spécialisée dans l'IA et de quelqu'un qui a choisi ce métier dans le but de contribuer au bien-être de l'humanité. Il a ajouté, tous les laboratoires de pointe en IA, y compris Anthropic, fonctionnent selon un ensemble de motivations et de contraintes qui peuvent aller à l'encontre de ce qui est juste. Non, vraiment? Mais nous y voilà. Anthropic vient d'annoncer avoir déposé un dossier confidentiel en vue de son introduction en bourse, se préparant ainsi à ce qui s'annonce comme l'une des entrées en bourse les plus attendues de ces dernières années. L'introduction en bourse d'Anthropic est l'une des 3 très attendues dans le secteur de l'IA, prévue cette année, aux côtés d'OpenAI et de SpaceX. Elle permettra aux investisseurs particuliers d'investir dans certaines des startups d'IA les plus prometteuses et offrira aux premiers investisseurs la possibilité de réaliser, bien entendu, des gains très importants. Le réseau de satellites de communication d'Elon Musk, quant à lui, a permis à l'Ukraine de mener la récente attaque meurtrière par des drones contre un dortoir universitaire à Lugansk. La semaine dernière, 3 vagues de drones kamikazes ukrainiens ont frappé le bâtiment principal et les logements de l'école supérieure professionnelle de Starobelsk, tuant 21 personnes, principalement des adolescents, et en blessant 60 autres. Ces sociétés avaient déjà fait pression sur le Pentagone pour obtenir des tarifs plus élevés pour la connectivité par satellite Starlink, utilisé par les drones kamikazes américains durant la guerre en Iran. Le différend porterait sur le système Lucas, une munition rôdeuse bon marché employée par l'armée américaine. SpaceX a fait valoir que l'armée payait environ 5 000 $ par terminal pour la connexion, alors qu'elle bénéficiait en réalité d'un service haut de gamme facturé 25 000 $ par mois. En mars, Musk avait tweeté que l'utilisation de Starlink dans les systèmes d'armes violait les conditions d'utilisation de l'entreprise, ajoutant que les opérateurs militaires devaient plutôt utiliser Starshield, autre branche du même groupe, un réseau distinct conçu pour un usage gouvernemental. Les dirigeants de l'entreprise ont ensuite fait pression sur les autorités pour obtenir une augmentation des tarifs. Le Pentagone a finalement cédé, doublant presque le prix initial de 30 000 $ par drone Lucas. Des concurrents comme OneWeb et le projet Kuiper d'Amazon restent bien plus modestes ou sont encore en phase de déploiement. Au moins, ils prouvent tous l'extrême profitabilité des guerres en cours. Le Pentagone envisagerait néanmoins d'acquérir plus de 3 500 abonnements Starshield supplémentaires, un contrat qui pourrait générer des centaines de millions de dollars par an pour SpaceX avant son introduction en bourse prévue le mois prochain. Cette dépendance est devenue particulièrement sensible face à l'explosion des coûts de la guerre contre l'Iran. Selon les estimations des analystes, le conflit coûte à Washington des centaines de millions de dollars par jour, les 6 premiers jours ayant à eux seuls englouti plus de 12 milliards de dollars, ce qui pousse le Pentagone à privilégier des armes moins chères, produites en masse et développées par de nouvelles entreprises de défense, toutes impliquant l'IA. 1 000 milliards de dollars, c'est la fortune dont disposera Elon Musk dans les prochaines semaines si l'introduction en bourse de SpaceX le 12 juin se déroule au prix prévu, soit proche de 2 000 milliards de dollars. Musk sera alors l'homme le plus riche du monde avec une fortune équivalent à 3% de la richesse nationale américaine. Musk ne va pas seulement être l'homme le plus riche du monde, il est aussi l'auteur d'une des plus grandes mystifications financières de l'histoire, car tout cela repose sur la colonisation de la planète Mars et de l'installation de centres IA dans l'espace. Sans commentaire. Pour continuer dans le registre guerrier, le département américain de l'énergie a sélectionné plusieurs entreprises privées comme bénéficiaires potentiels de plutonium de qualité militaire, dont une où le secrétaire à l'énergie Chris Wright siégeait au conseil d'administration avant de rejoindre l'administration de Trump. Le gouvernement américain détient environ 50 tonnes de matières fissiles provenant du démantèlement d'armes nucléaires sur des sites hautement sécurisés. L'administration Trump a annoncé l'année dernière son intention d'étendre le programme d'utilisation du plutonium excédentaire en autorisant les entreprises privées à fabriquer du combustible à haute densité énergétique pour les petits réacteurs de nouvelle génération avec 20 tonnes de plutonium destinées à ce transfert. Les critiques affirment que ce programme incite d'autres pays à considérer le plutonium contenu dans le combustible nucléaire usé comme une ressource précieuse plutôt que comme un déchet dangereux, créant ainsi des incitations à son extraction et à son stockage. Depuis 2025, les États-Unis ont attaqué l'Iran à 2 reprises, arguant que Téhéran n'était pas digne de confiance pour gérer une industrie nucléaire civile. Mais les entreprises privées américaines le sont. En janvier, le ministère de l'Énergie a annoncé son intention d'investir plus de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans dans les services d'enrichissement. Tournons-nous maintenant vers l'Amérique du Sud et le Venezuela. Mathieu Pigas a été choisi par Trump et le Venezuela pour restructurer la dette du pays. L'homme d'affaires français aurait décroché un juteux contrat au terme de plusieurs mois de négociations grâce à ses connexions avec l'entourage de Trump et le régime vénézuélien. Une somme estimée à 150 milliards de dollars est le montant de la dette publique extérieure du Venezuela, que le milliardaire sera en charge de restructurer par l'intermédiaire de la banque d'investissement CenterView, pour laquelle il a ouvert un bureau en France. L'accord aurait été scellé après un moment crucial fin janvier 2026 à Washington, après que le banquier français se serait rendu à la Maison-Blanche pour assister à la projection privée du documentaire sur Melania Trump, Melania, rappelons-le, le documentaire le plus cher de l'histoire américaine, comme nous en avons déjà discuté. La rencontre rassembla plusieurs invités de marque, parmi lesquels l'un des producteurs du film, l'Argentin Fernando Sulichin, producteur bien connu pour produire des films dits de gauche, comme ceux d'Oliver Stone, et aussi proche des dirigeants vénézuéliens. Comme quoi, l'appât du gain peut faire changer beaucoup de monde. Trump impose maintenant sa doctrine « America first », l'Amérique d'abord, à l'aide alimentaire d'urgence. Un nouvel accord entre le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et le Fonds américain Food for Peace, nourriture pour la paix, prévoit que des denrées alimentaires distribuées dans 7 pays vulnérables devront être produites aux États-Unis. Après la santé, c'est au tour de l'aide alimentaire en faveur des pays les plus vulnérables de passer au tamis des intérêts américains. Il s'agit de la première tranche d'un accord avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies au bénéfice de 7 pays, Éthiopie, Kenya, République démocratique du Congo, Rwanda, Salvador, Guatemala, Haïti. L'enveloppe promise s'élève à 357 millions de dollars. La totalité des denrées distribuées dans ces pays, y compris les aliments enrichis pour lutter contre la malnutrition, devra avoir été produite aux États-Unis. Ces dernières années, ce quota n'avoisinait qu'un tiers de l'aide alimentaire américaine, selon une évaluation de l'ONG Interaction, publiée en 2023. Autre exigence, l'attribution de bons alimentaires ou d'argent liquide préconisés par les agences humanitaires comme des solutions rapides et moins coûteuses dans les situations d'urgence est bannie. De surcroît, au moins la moitié du financement reçu devra être consacré à l'achat de ces aliments et à leur acheminement par des transporteurs américains jusqu'au point d'entrée dans le pays. Ceci condamne les organisations humanitaires à se suffire de la somme restante pour assurer la distribution de l'aide jusqu'à leur destination finale, le suivi des populations ciblées, le salaire des équipes mobilisées, etc. Il faut rappeler que ce programme, lancé au milieu des années 1950 par le président Eisenhower, avait à l'origine pour mission principale d'écouler les excédents agricoles américains et de conforter les alliances stratégiques pendant la guerre froide. Les importations sont utiles lorsque la production locale fait défaut, mais c'est en réalité rarement le cas. Les crises alimentaires sont bien plus souvent liées à des déplacements de population provoqués par des conflits ou des catastrophes naturelles et à la pauvreté. Les exemples du passé ont montré comment l'afflux massif de produits étrangers peut déstabiliser des filières autochtones. Dans les années 90, les livraisons de riz américains ont inondé Haïti avec un effet dévastateur pour les fermiers locaux. Pendant ce temps, l'administration Trump a annoncé la création d'un fonds de près de 2 milliards de dollars destiné à indemniser ses alliés qui s'estiment victimes d'enquêtes et de poursuites injustes, comme par exemple les émeutiers qui ont attaqué le Congrès américain pour protester contre la perte des élections par Trump. Cette initiative a été qualifiée de corrompue et d'inconstitutionnelle par les démocrates et les organismes de surveillance gouvernementale. Ce fonds s'inscrit dans le cadre d'un accord mettant fin au procès intenté par Trump contre le fisc américain, suite à la fuite de ses déclarations de revenus, selon sa technique habituelle de s'enrichir en faisant des procès à tout le monde, y compris son propre gouvernement. C'est une technique brillante qui consiste à faire payer les contribuables américains de sommes énormes négociées entre lui et lui, qui vont aller directement dans ses poches ou celles de ses supporters. Ce qui est à mourir de rire est que selon le procureur général par intérim Todd Blanche, ancien avocat personnel de Trump, le fonds va permettre, je cite, une procédure légale permettant aux victimes de manipulation et d'instrumentalisation du système judiciaire d'être entendues et d'obtenir réparation. Victimes de manipulation et d'instrumentalisation du système. Vraiment. Il y en a qui ont toutes les audaces. Il s'agit de l'un des actes les plus corrompus de l'histoire américaine, a déclaré Donald Sherman, président de l'association Citizen for Responsibility and Ethics, Citoyens pour la responsabilité et l'éthique à Washington. Rappelons-nous que dès son premier jour de mandat, le président a gracié ou commué les peines de ses partisans ayant participé aux émeutes du 6 janvier 2021. Depuis, son ministère de la Justice a approuvé des versements à des sympathisants impliqués dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2008 et a enquêté sur certains de ses adversaires présumés, allant jusqu'à les poursuivre en justice. Depuis, son ministère de la Justice a approuvé des versements à des sympathisants impliqués dans l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2008 et a enquêté sur certains de ses adversaires présumés, allant jusqu'à les poursuivre en justice. Maintenant, devant le tollé provoqué et la décision d'un juge fédéral suspendant le fonds pour un mois, la belle affaire, l'administration Trump a fait savoir aux dirigeants républicains du Congrès qu'elle prévoyait d'abandonner ce fonds, même si, selon deux sources proches du dossier, on ignore encore à quel point ce plan est ferme ou permanent. Une source proche du dossier a déclaré que Trump lui-même croit toujours au fond, même s'il reconnaît les vives oppositions à ce concept. Dans le même registre, de nouvelles déclarations de patrimoine publiées par le Bureau de l'éthique gouvernementale des États-Unis relèvent que le président Trump a effectué des transactions financières d'une valeur comprise entre 220 et 750 millions de dollars au cours du premier trimestre 2026, donc en seulement 3 mois, incluant des achats et des ventes de titres de sociétés telles que Microsoft, Meta, Nvidia, Apple et Goldman Sachs. Trump a acquis pour 500 000 à 1 million de dollars d'actions Nvidia une semaine avant que le département du commerce n'approuve officiellement la vente de certaines puces Nvidia à la Chine. Bien sûr, la Trump Organization affirme que ses investissements sont gérés exclusivement par des institutions financières tierces et que ni Trump, ni sa famille, ni la Trump Organization n'interviennent dans les décisions d'investissement. Ils ont beaucoup d'humour. Si tout cela était limité aux seuls États-Unis, ce serait déjà suffisamment grave, mais la politique trumpienne se répand dans le reste du monde. Il suffit de regarder dans l'Union européenne, qui vient de se doter d'un régime draconien d'expulsion des étrangers sans papier. Outre un renforcement des sanctions contre les déboutés du droit d'asile, les États, le Parlement et la Commission européenne autorisent la création de centres de rétention à l'étranger pour y renvoyer les migrants en situation irrégulière. Le nouveau texte sur les retours, le terme communément utilisé au niveau européen, était pour beaucoup le lien manquant de cette nouvelle politique migratoire plus stricte. Alors que les différents règlements contenus dans le pacte prévoient d'enregistrer, de filtrer, d'autoriser ou de refuser la protection aux demandeurs d'asile, il sera désormais plus facile pour les États de renvoyer les étrangers en situation irrégulière, quitte à les relocaliser dans des États dont ils ne sont pas issus, méthode trumpienne s'il en est. On peut aussi regarder en France où le groupe Bolloré, qui après s'être emparé de quotidiens, de magazines, de chaînes de télévision, de librairies, de maisons d'édition, veut maintenant s'emparer de la distribution de films et des salles de cinéma qui les exploitent. Ceci suit la méthode employée par Rupert Murdoch aux États-Unis depuis des dizaines d'années, méthode qui créa Trump de toutes pièces, alors qu'il n'était qu'un businessman dans l'immobilier ayant fait faillite un nombre de fois considérable. Le but de Murdoch a toujours été d'installer l'extrême droite au pouvoir aux États-Unis, ce qu'il a réussi, tout comme Bolloré, Sterrin et d'autres veulent l'installer en France, suivant ces mêmes méthodes de contrôle de l'information, des médias et de la culture. Il faut quand même noter que la prise de contrôle du groupe UGC par Bolloré, lui donnant ainsi la distribution et l'exploitation de films dans les salles de cinéma, serait interdite même aux États-Unis, où les studios ne peuvent posséder des salles. Cette tentative a provoqué durant le dernier Festival de Cannes la réaction des gens de cinéma qui ont lancé une pétition, dont je suis l'un des fiers signataires, appelée « Zappé Bolloré ». En réaction, Maxime Sarada, le patron de Canal+, propriété de Bolloré, a annoncé qu'il ne financerait plus les films des signataires de la pétition, inaugurant ainsi une nouvelle forme de censure à la mode trumpienne. Il est seulement surprenant que des gens importants du cinéma français n'aient pas signé cette pétition. Mais comme le réalisateur britannique Ken Loach a déclaré à Cannes suite à cette pétition, je cite « Le pire, ce n'est pas la violence des mauvais, c'est le silence des bons ». Fin de citation. Merci Ken Loach. Finalement, regardons du côté du continent africain. Le Parlement ghanéen a approuvé une loi prévoyant des peines de prison allant jusqu'à 5 ans pour les personnes qui promeuvent, financent ou défendent des activités LGBTQ+, et interdisant le financement de groupes et d'initiatives liées à ces personnes. La loi sur les droits sexuels et familiaux, également connue sous le nom de loi anti-gay, prévoit également des peines de prison allant jusqu'à 3 ans pour les personnes ayant des relations homosexuelles, ainsi que des peines de 3 à 5 ans pour celles qui promeuvent, financent ou soutiennent délibérément des activités LGBTQ+. Approuvée vendredi, cette loi devrait être promulguée par le président ghanéen John Dramani Mahama. Ceci fait bien sûr suite à l'érosion des protections des minorités LGBTQ+, aux États-Unis par l'administration Trump en matière d'accès à l'emploi, la famille et l'adoption, la santé et les services sociaux, et bien sûr l'éducation, supprimant également les collectes de données sur l'orientation sexuelle, ce qui rend les discriminations plus difficiles à mesurer et donc plus difficiles à combattre. Nous avons discuté de tout cela dans nos émissions précédentes. La question est maintenant de savoir comment ces mesures vont s'étendre au reste du monde, officiellement ou non. Il semblerait que la France ait des protections bien en place, mais comme nous allons le voir dans la seconde partie de notre émission, ce ne sont peut-être que des protections de façade, peu appliquées dans la réalité. Nous ne pouvons finir sans un peu d'humour lié à l'ego trumpien qui semble n'avoir pas de limite. Le bureau de la gravure et de l'impression envisage d'émettre un billet commémoratif de $250 à l'effigie de Trump pour marquer le 250e anniversaire des États-Unis, qui rendra, je cite, « un hommage approprié au 250e anniversaire de notre grande nation », fin de citation, a déclaré le porte-parole de ce bureau. Ben voyons. Maintenant, ce qui est plus drôle, c'est qu'un juge fédéral vient d'ordonner le retrait du nom de Donald Trump du centre John F. Kennedy pour les arts du spectacle. Maintenant, encore plus drôle, un buffle albino, sosie de Trump, a finalement été épargné et envoyé aux zoo. Sa spectaculaire mèche blonde, rappelant celle de Trump, a sauvé l'animal qui devait être sanctifié lors de l'Aïd au Bangladesh. Le gouvernement a décidé de maintenir en vie le jeune taureau qui fait sensation sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Et après le grand merci à Ken Loach, il nous faut remercier Bruce Springsteen qui a appelé Trump durant l'un de ses derniers concerts à Washington un président dangereux, raciste, incompétent et traître. Il l'a accusé, je cite, « de détruire l'idée américaine et notre réputation dans le monde ». Notre démocratie, notre constitution et notre état de droit sont aujourd'hui remis en cause comme jamais par un président dangereux, raciste, incompétent et traître et par l'administration de cet imbécile. Nous voici maintenant à l'heure de notre première pause musicale et comme la meilleure manière de remercier Bruce Springsteen est de l'écouter, je vous propose la chanson « If I Should Fall Behind » si je devais rester en arrière.
We said we'd walk together. Baby, come what may. There come the twilight. Should we lose our way? As we're walking, should slip free. I'll wait for you. And should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other to stay in stride. But each lover steps far, so differently. But I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, vous écoutez l'autre voix de l'Amérique et nous venons d'entendre If I Should Fall Behind de Bruce Springsteen. Cette chanson nous dit entre autres « Maintenant, chacun rêve d'un amour durable et sincère, mais toi et moi savons ce que ce monde peut faire. Alors faisons que nos pas soient clairs pour que l'autre puisse voir et je t'attendrai. Si je devais rester en arrière, attends-moi. » Et maintenant, nous voici rendus à la partie la plus intéressante de l'émission, puisque nous avons le grand plaisir de recevoir Pierre-Olivier Poyard, celui qui va nous expliquer que le système Trump est en train de se répandre autour du monde, et pourquoi pas en France, puisqu'il en fut une des victimes. Pierre-Olivier était enseignant dans une petite ville des Vosges, mais étant non-binaire sexuellement, syndicaliste et anarchiste, il s'est attiré les foudres de ses collègues, allant jusqu'à le pousser à vouloir mettre fin à sa vie. Il est en train de finir un livre sur cette horrible expérience qui s'appellera « Suicider ce PD ». Ben Pierre-Olivier, donc merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Je pense que ton histoire va être très intéressante pour beaucoup de nos auditeurs, parce que c'est une histoire quand même totalement incroyable, et qui, oui. Je pense, s'inscrit dans quelque chose de plus large, au sens, je pense qu'il y a, enfin moi je le vois, comme tu le sais, je suis basé aux États-Unis depuis 35 ans maintenant, et je vois une espèce de recul absolument incroyable aux États-Unis dans toute la protection de ce qui est convenu d'appeler LGBTQ+. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, il revient absolument en arrière sur tout. Toi, tu sens la même chose ici en France ou pas du tout?
Ben, en fait, aux États-Unis, c'est beaucoup plus fort, évidemment, parce qu'on a un gouvernement néo-crypto, fasciste, je ne sais pas comment dire, au pouvoir. Mais en fait, nous, en France, on a ce que j'appelle du fascisme déjà là.
Est-ce que tu as l'impression que sans cette évolution, ton histoire aurait été différente? Et on va venir à ton histoire, bien sûr, dès que possible. Mais est-ce que tu as l'impression que ça aurait été différent ou est-ce que tu penses que ça aurait été la même chose?
Bah, je pense que mon histoire, elle appartient bien à son époque, en réalité. Parce que, il y a 13 ans, 2013, en France, c'était le mariage pour tous. Donc, les gens qui passaient pour, des homophobes, parce que ce sont des homophobes. Donc, les gens qui étaient homophobes publiquement, c'était des gens qui étaient ridiculisés. Complètement ridiculisés, et qui passaient pour des guignols, je veux dire des gens, des cathos intégristes, des gens dont on se moquait, quoi. Je sais pas si tu as vu ce que tu en penses, parce que tu connais beaucoup plus les choses que moi, mais aux États-Unis, il y a aussi un retour du religieux et un combat contre la laïcité qui date en réalité du XXe siècle. Et donc, voilà, le fameux « In God we trust », c'est quelque chose qui est hérité de la guerre froide, par exemple. Voilà, les premiers, je veux dire, les créateurs de la République américaine, ils avaient une conception beaucoup plus laïque des choses, quoi. Et donc, en fait, c'est un retour. Alors, c'est pas ce retour-là, parce que là, c'est un retour qui est plus ancien, mais c'est vraiment un retour qui fait de la transphobie et de la haine des personnes LGBT un argument électoral et une sorte de panique morale. Et en fait, aux États-Unis, c'est lié à fait, avec la volonté qu'ont les personnes LGBT, trans et les personnes différentes, en fait, de la norme hétéropatriarcale, en fait, la volonté de contrôler leur corps. L'idée, c'est pour les religieux fanatiques des États-Unis et d'ailleurs, c'est que notre corps ne nous appartient pas. C'est la même chose en fait pour le droit à avoir le droit à la mort digne, ils ont le droit à pouvoir choisir sa fin de vie, c'est la même chose. C'est toujours l'idée que notre corps ne nous appartient pas. Alors en France, effectivement, les opposants à l'interruption volontaire de grossesse et au droit des femmes à disposer de leur corps ont subi des défaites ces dernières années. Mais aux États-Unis, c'est pas la même, hein. Bon, tu le sais mieux que moi, le droit à l'IVG recule en réalité. Et en fait, en même temps que le droit à l'IVG recule, le droit des personnes trans de pouvoir disposer de leur corps recule également. En fait, c'est le même recul. Donc en fait, mes problèmes ont commencé quand j'ai été élu trésorier national du Mouvement de la Paix en février 2023. Et donc, pour des raisons politiques, de gens issus d'un parti politique de gauche que je ne citerai pas, pour différentes raisons, mais voilà. Et en fait, ils ont lancé une cabale politique contre moi pour me détruire en tant que militant politique et en tant que militant pacifiste, parce que ce sont des gens qui sont opposés à la paix et au combat pour la paix, au combat contre les guerres, contre le capitalisme, pour la révolution. Et en fait, pour me détruire politiquement, en fait, ils ont utilisé un coming out que j'ai fait dans un mail personnel un responsable de cette organisation politique. Dans un mail, j'expliquais... C'est un mail où je protestais contre ma purge de cette organisation politique. Et donc, en tout cas, dans un mail où je protestais contre la purge dont j'étais l'objet dans cette organisation, j'explique « J'espère que tout cela n'est pas de la banale LGBT-phobie. » Donc, c'était une sorte de coming out, en fait, comme disent les anglo-saxons. Et donc ce coming out que j'ai fait à une personne, dans un cadre privé, en lui disant bien que ce mail restait entre nous, donc en lui signifiant par écrit le fait que je voulais pas qu'il soit diffusé publiquement, ce mail a été diffusé aux gendarmes de la ville, une ville de l'Est de la France, voilà, où je travaillais, Ce mail a été diffusé à mon administration, à la chef du lycée agricole où je travaillais. Et donc, et à partir du moment où ce mail a été diffusé, bon, les gendarmes, que je sois une personne LGBT, ils en avaient rien à foutre. Le fait que je sois un gauchiste, c'était déjà suffisant. D'ailleurs, les gendarmes m'ont dit, mais arrêtez d'emmener vos enfants dans les manifestations. Ce n'est pas bien. Pensez à organiser moins de manifestations et à vous occuper plus de vos enfants. Alors, ils m'ont dit ça. Et après, ils ont pris contact avec mon ex-femme pour essayer de la faire témoigner contre moi, dans le but, plus ou moins avoué, que je perde la garde de mes enfants. Alors là, je ne comprends pas aussi la dialectique gendarmesque. Ça me dépasse aussi, je trouve ça un peu absurde. Mais ne serait-ce que, bon, ils l'ont fait. Donc, ils sont capables de me dire d'un côté, occupez de vos enfants, et de l'autre, d'essayer de convaincre mon ex-femme d'ouvrir des procédures pour que j'en perde la garde. C'est quand même, c'est à ce niveau-là quand même les gendarmes. Lui m'a déclaré donc attention, vous êtes une personne LGBT, mais ce n'est pas une maladie.
Donc, alors, dis-nous juste une petite chose pour que les gens le situent, c'est c'était quoi ton travail et en quoi tu penses ça a influencé les choses. Voilà.
J'étais enseignant dans un lycée professionnel agricole et j'organisais des projets culturels. Et ça, c'est pas un boulot facile. Parce que certains, quand ils entendent le mot culture, sortent leur revolver. Et alors, ça a été toujours un peu difficile pour moi de travailler dans cet établissement de l'Est de la France, surtout avec certaines de mes collègues, soyons antisexistes sur la médiocrité des personnes en question, il y a autant d'hommes que de femmes. Et donc, notamment une collègue qui m'en a beaucoup voulu d'ailleurs, de faire quelque chose qui pour elle était impardonnable de ma part, c'est de publier des livres pacifistes. Donc j'ai publié un livre qui s'appelle « Oser la paix » aux éditions du Temps des Cerises en 2021, et un livre qui s'appelle « Écologie et paix » qui a été publié chez Émile Communication en 2024. Et donc cette collègue m'en a beaucoup voulu de publier des livres, donc d'ailleurs elle a écrit dans une des procédures contre moi, une procédure administrative, que j'écrivais des livres pour lui nuire. Donc, je n'ai pas cette ambition, voilà. Et donc, je faisais des projets culturels. Alors, notamment, on a fait un film avec une personne que les élèves appelaient le remualisateur. Donc, vous avez cette collègue issue de ce parti politique, là, qui n'était pas d'accord avec mes positions pacifistes, qui fait donc ce qu'on appelle en droit une violation du secret des correspondances avec son mari, responsable politique de l'organisation. Donc, elle transmet un mail dans lequel il n'y a ni insulte, ni menace. Donc, il n'y a aucune chose de délictuelle dans ce mail. Mais c'est un mail où j'explique que, pour moi, les responsables politiques des organisations politiques de gauche doivent ou devraient être syndiqués. Et apparemment, ça a choqué cette personne qui revendiquait être responsable politique d'une organisation politique de gauche. Ça a aussi choqué la responsable départementale de ce parti. Et tout de suite, la chef d'établissement, donc Nathalie Royer, qui peut m'attaquer en diffamation rigolant bien, Nathalie Royer a vu l'opportunité de se débarrasser de son syndicaliste gênant dans l'établissement. Donc le syndicaliste, moi je suis responsable national du CNTAP-FSU, je suis membre du Conseil syndical national, donc elle a vu l'opportunité de se débarrasser de moi en tant que syndicaliste. Donc elle a utilisé tous les moyens possibles et inimaginables. Donc cette collègue va donc déposer une main courante après en avoir discuté avec la chef d'établissement à la gendarmerie. Voilà, donc le mail arrive déjà dans l'enseignement agricole, le mail interne au parti, et après, il va chez les gendarmes, avec apparemment, après une discussion, avec la chef d'établissement. Et donc là, la collègue explique plusieurs choses aux gendarmes, qu'elle serait harcelée, donc c'est quand même une militante d'un parti de gauche, hein, qui maintenant est dirigeante d'un parti de gauche, et voilà. Donc elle explique que je l'oppresserais en lui demandant de se syndiquer. Première chose, elle explique que j'aurais des maladies mentales diverses et variées. Elle parle d'un trouble borderline. Oui, dans cette histoire, tu as plein de psychologues et de psychiatres amateurs, mais malheureusement, les amateurs disent des choses complètement débiles, mais parfois les professionnels disent des choses encore plus débiles. Donc, je pense que Aujourd'hui, on en parlait, tiens, lors de notre formation à la FSU sur les questions LGBT, de l'influence néfaste de la médecine et du corps médical en général par rapport aux personnes LGBT. Ça, c'est ce que Foucault a raconté très bien. Les personnes LGBT ne sont devenues un problème au 19e siècle. Oui, parce qu'avant, il y a eu le problème qu'il posait aux religieux catholiques et qu'il les brûlait. Donc, en tout cas, c'est devenu un problème pour les laïcs qu'à partir du moment où les médecins se sont emparés de la question. Et donc, c'est les médecins qui créent cette notion d'homosexualité. Homosexualité, c'est un terme médical. Et c'est un terme qui est inventé pour décrire une maladie. Mais une maladie qui, bien sûr, n'existe pas. Voilà. C'est pas parce que tu pratiques la sodomie que tu es malade.
Bien sûr.
Si les personnes sont consentantes. Eh bien, en fait, dans les psychiatres et les psychologues, en tout cas, un certain nombre que j'ai rencontrés bien malgré moi, dans cette affaire, on a l'impression que pour eux, l'homosexualité, c'est une maladie aussi très grave. Les psychiatres professionnels ne trouvent qu'une maladie chez moi, l'homosexualité. La chef d'établissement a jugé que j'étais un pervers narcissique. Et d'après elle, c'est incurable.
Bien sûr.
Et donc, cette collègue explique, donc, je la harcèle parce que je lui demande de s'indiquer, que j'aurais plein de maladies mentales, je ne vais pas toutes les citer, mais bon, voilà. Troisième point, que je serais un prof très mauvais. Et que je poserais problème aux collègues et aux jeunes tellement je serais mauvais. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que moi, j'ai une pédagogie que j'espère être la plus libertaire possible et qui est plus dans le développement de l'autonomie. Donc, quand je fais des projets culturels, il y a toujours un moment où je demande, plutôt au début du projet d'ailleurs, où je demande leur avis aux élèves. Je leur dis, vous en pensez quoi si on fait ça ? Voilà, donc je leur présente un peu mes idées, le cadre. Donc en général, ils trouvent que l'idée de départ est intéressante. Et en fait, quand on discute comme ça avec des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, et ben en fait, on avance vraiment bien ensemble. Hein. Oui, parce que les autoritaires pensent que les jeunes, c'est des cons, en fait. Ils pensent que ce sont des gens, quand on a 15, 16, 17 ans, qu'on n'a pas d'avis, qu'on n'a pas d'opinion, et qu'on a juste à être là, à ouvrir les yeux, à s'empêcher de dormir. Et puis à écouter benoîtement et passivement ce que ce que le prof a à nous raconter. Donc je pense à un certain nombre de mes collègues qui sont à la gendarmerie, c'est plutôt des conneries qu'ils leur racontent. Bref, passons. Et donc moi c'est pas ma manière de procéder en fait. Voilà. Et par exemple quelque chose qui choquait beaucoup mes collègues parce que ça fait du bruit. Par exemple on fait des ateliers d'écriture. Avec les gamins, on faisait, parce que ça fait 3 ans que je n'en ai pas fait. Et dans ces ateliers d'écriture, moi, j'aimais bien commencer par des chansons. Parce qu'en fait, la quatrième et dernière chose que cette collègue qui allait les poser une main courante a révélé sur moi, parce qu'il fallait le révéler, c'est que j'étais un danger pour les élèves. Alors, elle est quand même membre d'un parti politique de gauche, cette personne-là. Elle sait qu'on ne peut pas être condamné en harcèlement moral pour avoir syndiqué ses collègues. Elle le sait. Elle n'est pas stupide. La chef d'établissement le sait, elle n'est pas stupide. D'ailleurs, il n'y a jamais eu aucun élément pour attester le fait que je poursuivais dans les couloirs les collègues de mes cartes d'adhésion syndicale. Syndique-toi ! Ça n'a jamais... c'est tellement ridicule, ça n'a tellement aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais c'était quand même la raison pour laquelle j'étais convoqué au tribunal. Et donc, bref, donc cette collègue explique... elle se concerte avec la chef d'établissement, avec différents collègues, la plupart membres du syndicat Force ouvrière de l'établissement. Mais il y a des gens tellement bien à Force ouvrière. Beaucoup de gens bien. Mais il y a des salauds aussi, je ne peux rien. Il y a des gens très bien à la CFDT, mais il y a des salauds aussi, c'est comme ça. Et donc, avec les gens de Force ouvrière de la CFDT, donc ils se concertent, ils discutent ensemble apparemment, ils se mettent d'accord, voilà. Et donc, ils essaient de trouver des éléments pour dire que je suis un danger pour les élèves. Parce que vous n'allez pas me faire perdre mon poste parce que je suis syndicaliste. Ça en est quand même en France, il y a quand même un peu de liberté. Ça, ils le savaient. Par contre, ils ont essayé de prouver, avec des témoignages calomnieux, sans preuve formelle en réalité. Donc, ils ont essayé avec des témoignages calomnieux de prouver que j'étais un danger pour les élèves. Donc elle, la collègue qui a porté plainte contre moi, commence à dire que je pose problème, que j'ai des rapports inappropriés avec les élèves. Je déteste ce terme d'inapproprié. Je vais dire pourquoi je déteste. Parce que quand on veut parler d'agression sexuelle sur mineurs ou sur des adultes, on dit agression sexuelle, on ne dit pas inapproprié. Voilà, j'ai d'ailleurs envoyé un SMS à sujet à Gaël de Santis, un journaliste de l'Humanité, parce qu'il parlait de violences sexistes et sexuelles, et il mettait des comportements inappropriés. Mais je veux dire, ce n'est pas des comportements inappropriés, c'est des violences, quoi. Et ça, ça me met hors de moi, ces gens qui font de l'euphémisme avec les violences sexistes et sexuelles, quoi. Les gens qui sont agressés sexuellement, qui sont violés, ce n'est pas inapproprié, c'est illégal. Donc, je ne pense pas que Gaël de Santis m'écoute, mais je tenais à le redire parce qu'évidemment, il ne m'a pas répondu, parce que ces gens-là ne me répondent pas. Les journalistes, en général, ne me répondent pas, que ce soit l'Humanité, Libération, Mediapart, je leur ai écrit, je les ai contactés. Apparemment, ils sont intéressés, ces gens-là, ces journalistes, ne sont intéressés par les personnes LGBT que quand on meurt, que quand il y a du sang, que quand il y a des suicides, il y a des gens qui sont frappés, brûlés vifs et tout ça, ils ne s'intéressent qu'à ça. Voilà. Donc, honte à eux. Mais heureusement, on a Radio Libertaire.
Absolument.
Et donc, oui, donc ils ont essayé de trouver des éléments pour dire que j'étais un danger pour les enfants. Donc, cette collègue-là va dire qu'elle a rencontré des psychologues, le psychologue mystère. Alors, elle a rencontré une véritable psychologue dont je ne citerai pas le nom. Elle dit que la psychologue aurait dit de moi que j'agressais sexuellement les mineurs. Donc, évidemment, j'ai écrit à la psychologue 3 ans plus tard pour pas interférer dans l'enquête des gendarmes. Et je lui demande, apparemment, vous m'auriez accusé d'agression sexuelle sur mineurs. La psychologue me répond, je ne vous ai jamais accusé de rien, je ne vous connais pas, je ne vous avais pas accusé. Donc, en fait, la collègue ment, évidemment. Elle ment énormément. Donc, elle m'accuse d'agression sexuelle sur mineurs. Alors, la chef, elle est convaincue aussi que j'agresse sexuellement les mineurs. Elle l'écrit aux gendarmes. Donc, elle écrit aux gendarmes. Monsieur Poyard agresse sexuellement les mineurs. Vous en pensez quoi? Le gendarme lui répond. Évidemment, madame, si monsieur Poyard agressait sexuellement les mineurs, il y aurait une enquête d'agression sexuelle sur mineurs contre lui. Or, les gendarmes ont ouvert une enquête pour du harcèlement moral parce que je syndique mes collègues. Mais c'est étrange aussi, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc il n'y a jamais eu d'enquête sur les agressions sexuelles de mineurs, c'est un fantasme homophobe. D'autres collègues disent que je passe des films pornographiques en classe. Pareil avec un autre collègue qui explique que 6 ans auparavant, on ne sait pas quand, précisément, mais 6 ans auparavant, il ne dit même pas l'année, j'aurais proposé aux élèves de me sucer bien, et les élèves qui m'auraient bien sucé auraient de bonnes notes. Donc voilà, alors j'ai chopé ce mec une fois, il était venu. Ce mec est venu me pourrir la vie jusque dans le collège de ma fille. Donc je vois qu'il sort du collège de ma fille, je lui dis mais je chope à la sortie. Et donc là je lui dis mais ça va, t'as pas honte de faire des accusations pédocriminelles contre moi? Il me dit non, c'est faux, ce n'est pas pédocriminel. Voilà, ça c'est les collègues. Donc ils ont même pas, alors lui en plus c'est un homme, donc je peux le dire, il a même pas les couilles d'assumer les saloperies qu'il fait. C'est un lâche. Alors, je peux dire son nom, ça me fera plaisir. Alors, ce CPE, il s'appelle Christian Noret. Et il est allé il a continué comme ça, un salopard. Salopard, c'est peut-être de l'injure, c'est peut-être pas trop bien. Mais je le pense, il peut m'attaquer aussi pour le fait que je l'injurie. Ça me gêne pas. Ce collègue, il est allé jusqu'à faire un nouveau témoignage pour dire que, oh là là, je l'avais agressé. Oh, parce que je lui avais demandé des comptes sur le fait qu'il m'accuse d'être un pédocriminel. Donc voilà, alors les gens sont passés pour des victimes, sont des salopards et sont passés pour des victimes. Bref, donc il n'y a jamais eu aucun élément en gendarmerie, ni au niveau du procureur. D'ailleurs, le procureur l'a dit lors du procès, que ces accusations de pédocriminalité, c'était de la merde. Donc voilà, alors Nathalie Royer, la proviseure du lycée, et donc a fait un rapport totalement homophobe où elle met des trucs complètement délirants. Je serais obsédé par le sexe, je serais un danger psychique pour les élèves, je serais notamment obsédé par la longueur du sexe des hommes noirs. C'est beau, hein? Alors ça, elle sort ça de ses fantasmes à la fois racistes et homophobes, parce que Nathalie Royer a fait donc un écrit raciste et homophobe qu'elle a transmis à l'administration. Donc moi, je dénonce être victime de l'homophobie depuis 3 ans. Mais comme Nathalie Royer explique dans son document qu'il n'y a pas d'homophobie dans son établissement, alors c'est quand même assez délirant parce qu'elle-même écrit des choses qui sont racistes et homophobes. Donc voilà. Donc apparemment, elles sont les coordonnées les plus mal chaussées. Donc elle dit, il n'y a pas d'homophobie dans mon établissement. La preuve, une collègue dame est marié avec une dame. Alors j'aime bien, elle dit pas femme, elle dit dame. C'est ce côté moyenâgeux. Une collègue dame est mariée avec une dame. Elle est appréciée de tous. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie déjà qu'elle pense que parce qu'une personne qu'elle a identifiée comme LGBT, ce qui est en fait homophobe, d'identifier des personnes LGBT en réalité, c'est outer les personnes contre leur gré. Peut-être que la collègue, elle voulait pas que l'administration sache qu'elle était mariée avec une dame, voilà. Peut-être qu'elle voulait pas le dire, peut-être qu'elle voulait pas que je le sache non plus. Voilà, donc c'est une manière de la outer. Et en plus, elle explique que, en tout cas, une personne homosexuelle mariée ou LGBT mariée n'est pas, elle a preuve que qu'est acceptée par tous. La preuve que non, je reformule. La preuve que pour elle, il n'y a pas d'homophobie dans son établissement, c'est qu'une personne homosexuelle mariée est acceptée de tous. Ça veut dire en fait en creux que quoi? Que les personnes LGBT non mariées ont de soucis à se faire en réalité. Donc en fait, en 2013, on était pour le mariage pour tous. Moi, j'ai toujours été contre le mariage, personnellement. C'est mon côté anarchiste. Mais en tout cas, voilà, il y a eu ce nouveau droit qui a été fait. Et donc, il se trouve des chefs d'établissement dans l'enseignement agricole, peut-être ailleurs, qui expliquent que la discrimination, maintenant, elle se fait entre les personnes LGBT mariées, donc normalisées et insérées dans la société, et les personnes LGBT non mariées, qui en fait ne sont pas insérées dans la société, et qui continuent à avoir tous les préjugés qu'on trouve sur les personnes LGBT, et notamment le fait que ce sont des dangers pour les enfants. Et donc, voilà, donc suite à cette campagne homophobe, le ministère de l'Agriculture, à tous les niveaux, donc moi j'ai dénoncé être victime d'homophobie par écrit et à plusieurs reprises. Le ministère m'a expliqué, dans un document officiel, par écrit, signé par la secrétaire générale du ministère, que il n'y avait pas d'homophobie dans mon établissement. Donc, je disais être victime d'homophobie de manière fausse, et que accuser faussement des responsables administratifs d'être homophobe, c'était une violation de mon devoir de réserve et une violation de mon devoir d'intégrité des fonctionnaires. Donc, au ministère de l'Agriculture, il n'y a pas d'homophobie. Ça n'existe pas. Voilà. Toute personne qui serait victime de LGBT-phobie ou d'homophobie, qui le dénoncerait, ne serait pas écouté, parce que ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, d'un côté, on va avoir des campagnes de l'État avec Gabriel Attal. Oh, regardez-moi. Enfin, nous sommes acceptés dans cette société. Nous, les personnes gays, regardez. Je suis Premier ministre. Wouh! Alors oui, c'est un premier ministre, il est premier ministre parce que c'est un connard de bourgeois qui est au service de sa classe bourgeoise. Donc il est plus ministre parce qu'il est au service de la bourgeoisie classe qu'il sert que parce que c'est une personne LGBT. Je veux dire, il serait n'importe quoi d'autre, on n'en aurait rien à faire, du moment que c'est un bourgeois qui sert les bourgeois. Voilà. Donc il n'y a eu aucune avancée sur la question des LGBT-phobies dans le ministère de l'Agriculture, en tout cas du moins, c'est ce que je constate. Et je pense même qu'on est dans une situation de recul. Et en fait, le recul, il est dû à quoi? Il est dû au fait que, en fait, il y a toutes sortes d'organisations fascistes qui sont liées au zémouro-lepénisme. Donc Marion Maréchal, nous voilà Le Pen. Voilà, Éric Zemmour et toute cette tangence fasciste. En fait, ces gens-là, ils ont lancé un certain nombre d'associations. Alors, parents vigilants, parents en colère, mon fils ma bataille. Ça, j'ai découvert ça aujourd'hui. La petite sirène. Alors, plein d'organisations fascistes qui prétendent défendre l'intérêt des enfants. Et donc, en prétendant défendre l'intérêt des enfants, en fait, ils ne font qu'une seule chose, c'est combattre les personnes LGBT. Il faut plusieurs choses. Premièrement, ils combattent les personnes LGBT. Ils expliquent que les personnes LGBT ne doivent pas enseigner, qu'ils ne doivent pas être dans l'enseignement, qu'il ne faut certainement pas qu'on parle de sexe aux gamins dans les établissements scolaires, que les personnes LGBT ne doivent pas parler de sexualité dans l'établissement. Oui, parce que, en fait, dans la poursuite de cette campagne fasciste, moi, on m'explique que ce qui est gênant, c'est que je sois une personne LGBT et que parfois, comme d'ailleurs tous les enseignants, comme tous les éducateurs de l'enseignement agricole et de l'éducation nationale, il m'arrive parfois, de manière très réfléchie et la plus posée, rationnelle possible. Il m'arrive parfois de répondre à des questions sur la sexualité aux jeunes. C'est vrai, ça m'arrive.
Cas grave, bien sûr.
Et donc, d'ailleurs, c'est une obligation professionnelle depuis 2001. Donc, de répondre de manière intelligente. Donc, quand je pense au responsable de force ouvrière dans mon établissement, qui avait, par exemple, des questions sur la masturbation et qui expliquait aux gamins qu'il était très grave de se masturber, lui, ça va. Lui, il va me dénoncer à la gendarmerie, disant que moi, je passerai des films pornographiques aux élèves, que je serai un danger aux élèves. Mais alors, culpabiliser les gamins quand ils posent des questions sur la masturbation, ça, c'est bien, tu vois. C'est quand même le niveau de ces gens, quand même, hein.
Ouais,
et donc moi j'ai essayé de toujours dire des choses intelligentes, voilà. Par exemple, il m'est arrivé de distribuer des préservatifs aux élèves en leur disant je vous distribue des préservatifs, mais l'usage n'est pas fait pour l'intérieur de l'établissement, c'est à l'extérieur de l'établissement. C'était le seul commentaire que je leur faisais. Voilà, je leur disais pas de sexualité dans l'établissement. Nous on a un internat en plus dans l'enseignement catholique, on a beaucoup de catholiques, excuse-moi. L'enseignement agricole, mais des fois je me demande où la différence. Bon, c'est pas grave. L'enseignement agricole à l'internat, donc moi j'ai toujours aux élèves, pas de sexualité à l'internat, quoi. C'est en dehors de l'établissement. Voilà. Mais en dehors de l'établissement, protégez-vous, quoi. Mettez des préservatifs et tout ça. Et voilà. Donc après, j'ai été dénoncé par ses collègues, donc en gendarmerie. Donc les collègues, ils arrivent en gendarmerie de manière volontaire, on est donc à une enquête préliminaire. Il y a aussi des membres de l'organisation politique. Il y a 5 membres de l'organisation politique et une dizaine de collègues. Les membres de l'organisation politique viennent parler du harcèlement professionnel. Hein. Bon, en fait, ils n'en parlent pas, ils disent qu'ils ne sont pas témoins. C'est la même chose aussi pour les collègues de l'établissement qui disent aussi venir intervenir par rapport au harcèlement professionnel, mais personne n'en est témoin de rien. Ben évidemment, parce qu'ils vont pas dire que c'est grave de syndiquer les gens, quoi. C'est tellement ridicule. Donc, ils viennent pour raconter des choses, toujours pour expliquer que je suis un danger pour les enfants. En tant que personne LGBT, c'est sous-entendu, c'est pas dit forcément clairement. En tout cas, toujours des accusations à caractère sexuel, en expliquant que je suis un pervers, que je suis un malade mental, et patati et patata. Tout ça, après qu'ils aient découvert que j'étais une personne LGBT. Suite à ces accusations dégueulasses, homophobes, sur ma vie privée, tout ça... Donc, j'ai d'abord été mis en garde à vue par la Bleusaille. Lors de ma garde à vue, le 9 mai 2023, j'ai été emmené menotté à l'hôpital psychiatrique. J'ai dû faire un coming out forcé devant un psychiatre, donc qui a considéré que j'étais vraiment malade, parce que je lui ai dit que j'étais une personne LGBT, que j'avais vécu 15 ans avec une femme. Et donc, il m'a jugé atteint au plus haut degré... d'un trouble de la personnalité. Donc voilà, parce qu'en fait, pour ce psychiatre, la bisexualité, ce n'est pas possible. C'est impensable. Soit il y a les bons, les hétéros, les sains, les normaux, soit il y a les LGBT qui sont des gens malades. Voilà. Et ça fait 30 ans qu'on considère que c'est plus une maladie, mais en tout cas, pour le psychiatre de l'hôpital psychiatrique où on m'a emmené menotté, je lui ai demandé après pourquoi il avait dit d'écrire de telles choses. Il m'avait dit qu'il n'avait pas à rendre de compte. Je lui ai demandé 3 ans après aussi. Pourquoi il m'avait dit qu'il ne voulait pas me rencontrer, qu'il n'avait pas à me rendre de compte et que de toute façon, il ne m'avait pas vu en tant que médecin, mais qu'on lui avait demandé de faire quelque chose qu'il avait fait et que ce n'était pas de la médecine. Donc ces gens-là, en fait, ce sont des rouages. Les psychiatres l'appareil judiciaire, c'est un rouage du système répressif. Voilà.
Nous voici maintenant à l'heure de notre deuxième pause musicale. Je vous propose d'écouter One, hein, de U2.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care.
disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love and you want me to go without.
Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez L'autre voix de l'Amérique et nous venons d'entendre One de U2 qui nous dit entre autres « Un seul amour, un seul sang, une seule vie. Il te faut faire ce que tu dois faire, une seule vie, ensemble, sœur, frère, une seule vie. Mais nous sommes différents, nous devons nous soutenir. » Nous revenons vers notre invité Pierre-Olivier Poyard. Comment même les flics peuvent justifier de te mettre en garde à vue, puisqu'il n'y avait aucune preuve sur rien nulle part, de te mettre en garde à vue, de te passer les menottes et de t'emmener à l'hôpital psychiatrique? Comment ça, c'est justifiable?
Alors, le fait de me mettre les menottes, c'est totalement illégal. Donc voilà, déjà. Après, j'ai été emmené à l'hôpital psychiatrique sur demande du substitut du procureur, qui m'a fait emmener à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Et en fait, il a jugé tout seul qu'il fallait que je sois emmené à l'hôpital psychiatrique. Sauf que quand tu es emmené à l'hôpital psychiatrique, après, tout le monde te pense fou.
Bien sûr.
Quoi que dise le psychiatre, t'es emmené en l'hôpital psychiatrique, c'est la preuve que tu es fou. Merci. Donc en fait, les procureurs dans notre pays ont un pouvoir démoniaque. Je vais pas dire un pouvoir divin, pour moi c'est plutôt un pouvoir démoniaque. Ils sont capables d'un trait de plume de détruire la vie des gens, quoi. On est dans le cours de Monte Cristo, quoi. Et donc ensuite.
Et il a justifié ce procureur, ce substitut, il a justifié sa décision de t'envoyer à l'hôpital psychiatrique par quoi?
Par ça, voilà. C'est comme ça qu'il justifie, en fait. Il décide de m'envoyer à l'hôpital psychiatrique, il le fait. C'est hallucinant, en fait. Si je l'appelle ou si je le contacte ou si je tombe sur lui, il me dira ben non, je n'ai pas de compte à vous rendre, c'est une décision que j'ai prise.
Donc après, qu'est-ce qui se passe? Donc alors, tu es emmené à l'hôpital psychiatrique et donc il te considère comme malade, c'est clair. Donc après, qu'est-ce qui se passe?
À cause de cette maladie qui est l'homosexualité.
Absolument, ouais.
Et donc après, donc les gendarmes considèrent qu'il n'y a rien, y compris sur le harcèlement moral syndical là. Donc ils me proposent une médiation pénale. Donc, je vais à la médiation pénale le 8 septembre. C'est là que je découvre les accusations infâmes et honteuses de mes homophobes de collègues. Et donc, on est l'avocate, moi et le médiateur pénal. Je dis, mais où est la personne avec qui je suis censé faire la médiation? Il me dit, bah non, je reçois déjà les deux de manière séparée. Donc, pour moi, ça, c'est pas une médiation. C'est autre chose. Et je lui dis, mais moi, j'ai déjà pris plein de dispositions pour pouvoir retravailler, tout ça. Je veux retravailler en paix, laissez-moi tranquille, quoi. Et je veux rencontrer la personne qui m'accuse, pour qu'on puisse en discuter. Donc, ma demande, c'était ça, de faire une vraie médiation. J'apprends, beaucoup plus tard, parce qu'on ne vous dit pas, que la collègue va à la médiation pénale, pareil, toute seule avec son avocate, quinze jours plus tard, et qu'elle explique qu'elle veut mettre fin à la médiation pénale. Donc, elle décide de mettre fin à la médiation pénale, plus de médiation pénale. Donc, pour finir, je pensais que ça allait être enterré, vu que les gendarmes, il n'y avait rien, qu'elle a refusé la médiation pénale. Et en fait, quelle n'a pas été ma surprise de me retrouver devant le tribunal correctionnel d'Épinal en septembre 2025 et après avoir déboursé à peu près 18 000 euros de frais d'avocat entre les procédures pénales et les procédures administratives. Et donc là, la procureure de la République m'explique, je ne vais pas citer son nom non plus, elle m'explique, vous êtes là parce que vous syndiquez vos collègues. Alors, stupeur dans la salle, les gens dans la salle me disent « mais c'est pas un délit ». Il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient là, mon comité de soutien. Et elle m'explique « vous syndiquez vos collègues et en plus, vous êtes responsable syndical national, ce qui est une circonstance aggravante, vous avez donc du pouvoir ». Donc voilà, c'était complètement ridicule. Donc on m'a sorti deux, trois conneries que les collègues avaient dit. Deux, trois conneries que les psychiatres avaient dit. J'ai malheureusement pas pu répondre à tout. Voilà, parce que mon avocat m'avait dit qu'il fallait que je ferme ma gueule, donc j'ai quand même fermé ma gueule au maximum, puis écouter les saloperies qu'on a dit sur moi, ça en est, notamment la procureure qui m'explique pendant 10 minutes que je suis un mauvais prof, comme si c'était une pédagogue, voilà, et après au bout de 10 minutes elle me dit « ouais c'est vrai vous êtes un mauvais prof, mais c'est pas pour ça que vous êtes ici, parce que vous êtes ici parce que vous syndiquez vos collègues ». Donc voilà, donc pour finir j'ai été totalement relaxé un mois plus tard. Donc j'ai été reconvoqué au tribunal le 7 octobre. Là on m'a dit vous êtes relaxé. Bon, ils m'ont expliqué votre collègue elle a des problèmes psychologiques, mais vous n'en êtes pas la cause. Ah bah merci, je le savais. Et donc voilà. Donc après j'ai demandé un certificat de non-appel. Donc je l'ai eu un mois plus tard. Après j'ai attendu le jugement. Je l'ai eu 8 mois plus tard. Mais tu te dis quoi? Tout ça pour alors c'est la moitié, ils recopient les conneries que les gens racontaient. Et puis après, ils expliquent pourquoi je suis relaxé. Je suis relaxé parce que les gens racontaient des conneries, que c'est pas du tout du harcèlement moral ce qui s'est passé. Peut-être j'étais en conflit avec la collègue. Alors, j'ai jamais été en conflit avec la collègue en réalité avant le conflit politique en mars 2023. Le jugement dit peut-être qu'il y avait un conflit. Bon. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu une intention de nuire de ma part. Ben non, évidemment, comme il n'y a pas de fait. Il n'y a jamais eu de mail, de SMS, rien, aucune preuve matérielle. Les témoins, ils disent rien par rapport à du harcèlement moral. Et surtout, donc qu'on le sache dans tous les partis de gauche, là où on va faire des cabales politiques contre les militants, en fait, exprimer une opinion par écrit, au sein d'un parti de gauche, comme quoi, par exemple, les responsables de ce parti doivent être syndiqués, c'est de la liberté d'expression.
Bien sûr.
Donc la justice bourgeoise, en fait, garantit la liberté d'expression à l'intérieur des partis de gauche qui n'est pas garantie. Et deuxième point très important, donc mes collègues m'ont reproché d'avoir critiqué la présence de l'armée dans les établissements scolaires. C'est pas exactement ça, mais bon. En tout cas, le jugement explique que critiquer l'intervention de l'armée dans les établissements scolaires, c'est aussi une opinion et cela fait partie de la liberté d'expression. Alors à tous les trouillus qui ont peur de dire non quand les chefs ou des collègues militaristes disent « Ah, il faut faire venir les militaires dans l'établissement, vous allez voir, c'est trop bien », ils peuvent leur dire non. Ça, c'est aussi le résultat de mon procès. Donc mon procès, c'est « Oui, vous pouvez syndiquer vos collègues, ce n'est pas du harcèlement moral. Donc ça m'a quand même coûté 20 000 balles. J'attends toujours que les syndicats me remboursent. Parce qu'en réalité, en ayant fait le choix de payer 20 000 balles pour que je sois bien défendu, donc par un avocat parisien professionnel, Ariel Imi, en payant ça, j'ai évité une jurisprudence qui aurait permis à tous les connards de patrons et à tous les connards de hauts fonctionnaires de l'État de pouvoir attaquer tous les syndicalistes de France en leur disant « Ah ah, il y a une jurisprudence, hein, vous syndiquez vos collègues, vous les harcelez ». Donc j'aimerais bien aussi que cette grande victoire syndicale, elle soit diffusée dans les syndicats. Mais apparemment, la CGT, on a décidé dans des échelons subalternes ou même un peu plus élevés, je ne veux pas développer, qu'on ne me défendrait pas pour l'instant. J'espère que ça changera, qu'il y aura des militants syndicaux à la CGT qui défendront quand même le fait que c'est une grande victoire syndicale.
Bien sûr, c'est très important.
Et à la FSU, il n'y a que mon syndicat, le CETAP FSU, qui pour l'instant a fait une motion de congrès pour dire que c'était une victoire syndicale qu'on a obtenu ça, quoi. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, j'ai été harcelé, j'ai été pourri par le responsable du service des ressources humaines. Alors, ils chassent les PD d'une manière assez perverse, parce qu'en fait, au ministère de l'Agriculture, on considère qu'une femme qui porte plainte contre moi, qui suis assignée homme, d'ailleurs, je me revendique pas homme en plus, je pense être plutôt non-binaire qu'autre chose. Bon, en tout cas, le ministère a décidé que j'étais un homme, et donc c'est forcément et nécessairement de la violence sexiste et sexuelle. Donc en fait, le ministère, en attaquant une personne LGBT, en me pourrissant la vie, en me faisant perdre mon poste de travail, en laissant courir la rumeur comme quoi je serais un danger pour mes élèves, pense défendre les droits des femmes. C'est puissant quand même, hein. Voilà. Donc lui, il allait jusqu'à pousser le vice, en organisant une sorte de réunion secrète le 6 décembre 2012, dont je n'ai jamais eu de compte rendu, où il était question de moi. Alors ils ont épluché le communiqué, l'article de la Libre Pensée sur le blog de Mediapart du 16 novembre 2024. Où la libre pensée explique à quel point c'est scandaleux ce qui m'arrive, mais en fait c'est encore plus scandaleux parce que en fait c'était une attaque contre le syndicalisme en général, contre les droits des personnes LGBT, contre le syndicalisme en général, donc c'est encore plus scandaleux. Et donc en fait ils ont réuni plein de hauts fonctionnaires, puis d'autres gens inutiles et nuisibles à l'État. Ou alors est-ce qu'il est nuisible à l'État ou est-ce que la nature de l'État c'est d'être nuisible? Je laisse cette réflexion. Réflexion aux camarades anarchistes. Et donc, ils ont fait une réunion où ils ont lu le communiqué de la Libre Pensée et ils en ont conclu qu'ils me menaçaient. Et donc, il explique que si je continue à parler de ce qui m'est arrivé, comme je le fais aujourd'hui donc sur Radio Libertaire, ils vont me mettre une autre sanction. Ah ah ! Parce que le ministère m'a sanctionné en réalité. Donc, j'ai été conduit à une CAPD, Commission administrative paritaire disciplinaire. Lors de cette CAPD, il y avait des syndicalistes qui étaient là, donc ils m'ont défendu. Ils ont dit, mais arrêtez de l'emmerder, quoi. Arrêtez d'emmerder cette personne parce que c'est de l'homophobie, quoi. Arrêtez. Et donc, évidemment, lors de cette CAPD, donc la CAPD a décidé de ne pas me sanctionner. Mais un mois plus tard, le secrétariat général du ministère a décidé de me mettre 4 jours de retrait de salaire. Et donc, pour comportement inapproprié, voilà, ce qui est en fait la définition de mon handicap. Donc, mon handicap a été diagnostiqué après. Donc, on peut pas leur en vouloir avant. Mais dans d'autres documents qu'ils ont offert à mon sujet, ils le redisent. Comportement inapproprié. Donc, ils en sont fiers, quoi. Ils en ont rien à branler d'avoir en face d'eux une personne handicapée avec un haut potentiel intellectuel et un trouble du spectre autistique. Et moi, Le propre de mon handicap, c'est je ne sais pas ce que c'est qu'être normalisé socialement. Bon, ça doit être certainement voilà.
C'est plutôt une qualité, ouais. Non?
Dans nos sociétés, c'est un handicap. Hein. Et en plus, je ne sais pas ce que c'est qu'un comportement approprié ou un comportement inapproprié. Je ne sais pas ce que c'est qu'une adresse ou une maladresse sociale. Voilà, je suis comme ça, je suis pas autrement. Je suis particulier et je suis handicapé et j'ai fait reconnaître mon handicap. Eh ben, figure-toi que depuis que j'ai été diagnostiqué en mars 2025, depuis que j'ai obtenu ma RQTH en septembre 2025, le ministère n'a toujours pas reconnu mon handicap. Mais dans la réalité, c'est le ministère de l'Agriculture discrimine les personnes avec un TSA comme moi, en leur mettant des sanctions qui sont directement liées avec leur handicap. Donc, première raison de la sanction, deuxième raison de la sanction, c'est le syndicalisme. Voilà, on me reproche encore de faire du syndicalisme en disant que je suis une méchante personne parce que je reprocherai à mes collègues de ne pas être syndiqué. Il n'y a strictement aucun élément. Personne ne s'est jamais plaint que je lui reprochais de ne pas être syndiqué. En fait, il n'y a que dans ce mail interne à ce parti politique où j'en parle. J'en ai jamais parlé aux collègues, il n'y a aucun témoignage. Mais en fait, ils se basent directement sur un mail interne d'un parti politique pour me sanctionner, quoi. Ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de la liberté d'expression et des libertés politiques.
Bien sûr.
Donc ils m'attaquent parce que je suis membre de la libre pensée, ils m'attaquent à partir d'un mail d'un parti politique, mais c'est quand même hallucinant, quoi.
Une chose que tu nous as pas dit, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec ton boulot, ton boulot de prof ?
Ah oui, oui. Alors mon boulot de prof, donc pendant un an et demi, j'étais en arrêt maladie. Donc là, normal, j'étais en dépression chez moi, j'avais envie de mourir, idées suicidaires et tout ça, je ne l'ai pas fait. Mais j'y ai beaucoup pensé, parfois j'y pense encore un peu, ça m'arrive. Voilà. Après, j'ai repris le travail. Donc le jour avant de reprendre le travail, j'ai écrit à mes chefs, je leur ai dit « mais j'ai aucune consigne ». Donc j'ai reçu un mail d'un bureaucrate parisien, dont je ne citerai pas le nom, mais lui aussi est quand même sacrément grave, et il me dit « attendez les consignes ». Donc j'attends les consignes, je suis convoqué dans mon établissement 15 jours plus tard, et là je suis convoqué par mon chef d'établissement qui me donne une interdiction de me rendre dans mon établissement, interdiction d'accès pendant un mois. Alors le motif de cette interdiction d'accès, c'est que je représenterai un danger pour mes collègues, toujours à cause du texte de la libre pensée. En fait, je représente un danger pour mes collègues parce que je suis membre de la libre pensée quand même. Elles sont les libertés politiques dans notre pays, quoi. Donc moi, je suis extrêmement fier d'être à la libre pensée. Je suis fier d'être un libre penseur, comme Victor Hugo, comme Anatole France, et comme bien d'autres. Et donc, voilà, mais c'est à cause de ça que j'ai encore été sanctionné d'un mois d'interdiction d'accès de mon établissement.
Et qu'est-ce qui s'est passé après, surtout, après le mois, alors ?
Eh bien, après le mois, on m'a proposé un emploi fictif. Parce qu'on préfère que j'ai un emploi fictif, alors c'est une sorte de lettre de mission qui n'a... La lettre de mission, la première lettre de mission qu'on m'a mis pour deux mois, on m'a montré la lettre de mission signée à la fin de ma lettre de mission. Voilà. J'ai une mission. En fait, j'ai aucune... on m'explique ce que c'est, mais sans avoir de véritable consigne. Et on me dit, voilà les consignes, le jour où c'est fini, le 30 juin. Donc voilà, là, c'est là où s'en est le ministère de l'Agriculture, quoi. Le niveau d'incompétence, quoi. Et donc ensuite, moi j'ai dit, vous me proposez une démission pour deux mois, proposez-moi une démission pour un an. Parce que c'est vrai que je me suis dit quand même un emploi fictif. C'est vrai que c'est dégueulasse, parce que c'est l'excuse qu'ils ont trouvée pour m'empêcher d'aller travailler avec les jeunes. Mais je me suis quand même laissé tenter par l'emploi fictif. Donc j'aurais dit, lettre de mission, faites-moi une lettre de mission pour un an. Donc évidemment, ils n'ont pas voulu me faire la lettre de mission pour un an. Ils m'ont dit, on fait une lettre de mission pour deux mois. On ne connaissait pas le contenu. Après m'avoir dit ça, donc ça c'était au mois d'octobre. Au mois de décembre, ils me disent, attendez, on a trouvé le contenu de la lettre de mission. Donc ils m'envoient un projet de contenu de la lettre de mission, je donne mon avis et tout ça. Donc j'apprends dans la presse, dans Vosges Matin, que le ministère de l'Agriculture va me redonner un poste, mais pas l'endroit où je travaillais. Et donc là, je me dis, mais ils se moquent vraiment de moi. Donc après, ils ont essayé de me faire signer une mission. Alors je leur dis, mais vous allez me faire signer une mission depuis septembre, en février, parce qu'en février, elle était prête. Et donc là, je leur ai dit, mais déjà, vous n'allez pas me faire signer un truc qui devait commencer en septembre. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne signerai pas quelque chose antidaté. Ça n'a pas de sens. Et donc, voilà. Donc je revendique leur avoir dit merde. Et je leur revendique de désobéir et voilà qu'ils peuvent me remettre une nouvelle sanction en disant que j'ai un comportement inapproprié. Je les attends.
Mais donc tu es sans travail pour l'instant au niveau du ministère de l'Agriculture.
Alors je suis payé.
D'accord.
Je suis payé. En fait, ils n'ont jamais réussi à ne pas me payer. Comme je suis responsable syndical national, ils n'ont jamais réussi à me radier, à me licencier. D'ailleurs, ils n'avaient pas de preuves et pas d'éléments. Les gens qui ont vraiment un rôle dans ce ministère, en tout cas au niveau de l'enseignement agricole, c'est les gens qui sont dans les établissements scolaires, quoi. C'est les gens qui font les fonctions, tous les personnels qui travaillent dans les établissements scolaires, sauf les chefs, parce que là, je trouve aussi que c'est un emploi fictif. Parce que moi, je pense qu'un établissement, ça fonctionnerait beaucoup mieux de manière auto-organisée sans chef d'établissement, en fait.
Bien sûr.
Voilà.
Et donc, chose dont on n'a pas parlé, qui je pense que je trouve très importante, c'est qu'on a essayé, ils ont essayé dans toutes ces procédures de t'enlever la garde de tes enfants.
Ah oui, c'est vrai, il y a aussi la procédure familiale, effectivement, j'en ai pas parlé. Donc, je vais pas rentrer dans les détails dans la procédure familiale parce que j'essaie de défendre un peu l'intérêt de ma famille, y compris de mon ex-femme qui a lancé la procédure familiale. parce que c'est la mère de mes enfants, et moi je n'attaque pas la mère de mes enfants, elle a attaqué le père de ses enfants, et moi je n'attaque pas la mère de mes enfants. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que je reçois, donc j'ai accès à un enregistrement que Sandra Blaise fait, donc cette responsable du parti politique que je ne souhaite pas citer. Donc tu vois la situation, je suis dans un café à 9h du matin, avec le responsable d'un parti politique national, avec qui on discute de mobilisation pour la paix et tout ça, elle laisse un message, donc on l'écoute, et cette personne explique que je suis fou, que je suis un malade mental, que j'ai une procédure avec mes collègues dans mon établissement, et elle explique qu'il y a une procédure familiale contre moi. Sauf qu'on est en juin 2023 et qu'il n'y a pas de procédure familiale contre moi. La procédure familiale arrivera après. Et en fait, dans cette procédure familiale qui commence en fait un jour, pour différentes raisons que je ne développerai pas, mon ex-femme m'envoie un mail où c'est écrit « Suspension de ta garde, à partir de maintenant, tu ne verras plus tes enfants ». Donc, il y a une procédure au juge d'affaires familiales. Et mon ex-femme a monté un dossier contre moi. Et dans ce dossier, eh ben dis donc, il y a encore cette dirigeante nationale de ce parti politique de gauche qui intervient. Donc, elle écrit au juge d'affaires familiales que je serai un danger pour mes enfants. Elle apparaît aussi dans mon dossier pénal. Parce qu'elle est allée rencontrer un responsable du mouvement de la paix, à qui elle a demandé des mails internes au mouvement de la paix. Alors lui, comme il est un peu con, il lui a donné donc un mail du Conseil national du mouvement de la paix et du Bureau national du mouvement de la paix, donc des mails internes au mouvement de la paix. Donc là, nous aussi, on est dans la violation du secret des correspondances. Et elle va transmettre ces mails internes au mouvement de la paix à la gendarmerie. Et alors là où c'est quand même assez troublant, la collègue qui va donc déposer plainte contre moi plusieurs fois, 5 fois, donc dont 2 fois où je suis en arrêt maladie, donc elle va dire au gendarme « il me harcèle !» Je suis en arrêt maladie quand même, hein. Je n'ai aucun contact avec elle, je ne travaille pas. Donc on est vraiment dans une forme d'acharnement. Et donc notamment dans une plainte déposée le 23 février 2024, elle explique qu'elle a rencontré mon ex-femme. Donc mon ex-femme, elle est en procédure contre moi, elle rencontre la personne qui a porté plainte contre moi. Donc elle dit qu'elle a rencontré mon ex-femme et que je suis bien un danger pour les enfants. C'est toujours le même problème, tu vois. Elle dit, c'est bien un danger pour les enfants, hein. La preuve, son ex-femme a fait une procédure pour ne plus qu'il ait la garde de ses enfants. Voilà, procédure que j'ai gagnée, mon ex-femme a été condamnée à 1 700 euros d'indemnité. Mais j'ai quand même bien conscience qu'elle était, mon ex-femme, manipulée et instrumentalisée par ces personnes.
Mais qu'est-ce que tu penses au fond, donc, tous ces gens qui ont fait de plein de délires dans tous les sens, tu penses que ce qui les gênait le plus, c'était ton homosexualité, ou c'était ton syndicalisme, ou c'était ton anarchisme, c'était quoi?
J'ai mon côté insupportable, évidemment, d'être une personne aussi multiple, aussi ouverte, avec une identité tellement fluide, en fait. Tu vois, j'ai vécu 15 ans avec une femme. Après, je dis que je suis une personne LGBT. Après, j'ai eu une relation avec une personne de mon sexe. Après, c'est compliqué parce qu'on était tous les deux non-binaires. Donc, bon. Donc, voilà. Donc, les gens n'aiment pas ça, en fait. Les gens, ils veulent des gens qui soient dans des cases. Moi, l'humanité, dans sa totalité, dans son ensemble, dans sa complexité, dans sa globalité, me fascine. Je trouve que la vie ne vaut d'être vécue rien que pour explorer la complexité de l'humanité. Et je trouve ça vraiment formidable. Et donc, oui, je suis une personne extrêmement complexe. Et donc, pour une personne aussi complexe que moi, il fallait une affaire très complexe. C'est souvent, on me dit « Ah, c'est complexe en affaire ». Mais en fait, c'est simple. Parce que à la base de tout, il y a la haine pure, la haine franche, la haine viscérale. La haine de la différence, la haine de la révolution, la haine du pacifisme, la haine du syndicalisme, tout ça en fait est lié en fait. Tout ça c'est ce qui génère de la haine. C'est des gens qui sont les gens qui m'attaquent sont des gens qui sont conformistes, qui sont soumis, ce sont des obéissants, ce sont les gens qui font rouler les trains, ce sont les gens qui vont voilà, c'est les flics sous l'occupation qui vont arrêter les enfants juifs alors que les nazis leur disent pas d'arrêter les enfants juifs, mais qui disent ah mais si, on va arrêter les enfants juifs parce qu'on va pas séparer les familles, vous comprenez? Voilà, c'est ce genre de personnes là, voilà, c'est ce genre de personnes là, et moi ce genre de personnes là ça me dégoûte, voilà. Surtout que ce genre de personnes là en plus ils ont été résistants le 14 août 1944, donc ce sont des gens qui vont se dire ah ben non, on est des gens bien, tu comprends, on est des gens bien, on est des gens ouverts, on est des gens tolérants, mais non, en fait, vous êtes des salopards, vous êtes des crapules, et en fait, moi, je suis le miroir de leur haine, voilà.
Non, mais tu n'es pas si complexe. Il y a plein, il y a un mouvement communiste libertaire qui est très important et voilà, et donc qui a été dans l'histoire depuis le 19e siècle. Et donc, tu vois, tu n'es peut-être pas si complexe et tu es peut-être beaucoup plus normal que qui veulent te faire passer, tu vois. Mais bon, à bientôt.
Ouais, merci pour tout, Philippe.
Ciao. Merci à tous d'avoir été présents pour cette émission. Et donc, nouvelle émission le lundi 14 juillet. Et oui, le 14 juillet à 19h30 sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Permettez-moi juste de vous rappeler qu'outre le versement du fonds de soutien à l'expression radiophonique qui est actuellement menacée par le gouvernement, les dons des auditeurs sont la seconde ressource financière de la radio. Si vous le pouvez, merci de penser à soutenir la radio par un don, si petit soit-il, allant sur le site de Radio Libertaire, radio-libertaire.org, et en vous rendant sur l'onglet « Nous soutenir ». Merci, bonsoir.
De sens, nous revoilà. Nous sommes ici le deuxième et quatrième lundi de chaque mois. Nous sommes quatre aujourd'hui, donc Yann, bonjour.
Bonjour.
Salut Sébastien.
Salut Luc.
Et à la technique, nous avons aujourd'hui l'aide de Léo.
Elle vous fait signe. Bonjour voilà, tout le monde.
Voilà, elle n'a pas de micro devant sa bouche. Alors aujourd'hui, on va parler de bulles et de bulles spéculatives, de bulles économiques. Donc, une bulle économique, on sait à peu près tous ce que c'est, mais si on veut remettre un petit peu de contexte, c'est donc une situation dans laquelle le prix d'un bien ou d'un service, d'ailleurs n'importe quoi, est très élevé par rapport à sa valeur. Et notamment dans sa valeur, c'est les profits qu'on pourrait en tirer. Voilà. On sait que les bulles s'agrossissent, on arrive à faire de l'argent avec, jusqu'au moment où ça nous pète à la gueule.
Oui, moi ça on le sait dès qu'on apprend à faire des bulles de chewing-gum, en principe.
C'est ça, tout à fait. alors qu'est-ce qu'on a, pourquoi on veut parler de ça? C'est que bah, c'est dans l'air du temps, on en a un certain nombre de bulles. L'émission c'est pas la bulle, mais ça devrait être les bulles en réalité. Il y en a une annoncée par les gens qui la font, c'est la bulle de l'intelligence artificielle. On a fait une émission sur le sujet il y a quelques semaines. L'IA en 2026, c'est 700 milliards d'investissements. Et je reviendrai un peu dans le détail là-dessus, mais il n'y a toujours pas de vision claire sur la rentabilité de ce machin, alors que ça draine une quantité d'argent hallucinante. Et donc voilà. Il y a un autre sujet qu'on a découvert grâce à Sébastien, qui est un article qu'il a remonté, un article de Frédéric Lordon, économiste bien connu. Surtout voilà des gens qui sont plutôt dans, du côté contestataire.
J'en reparlerai d'ailleurs à un moment.
C'est le private credit et en gros ce qu'il explique c'est que c'est une sorte de crédit fait directement entre des investisseurs et des entreprises qui sont trop fragiles pour que les banques daignent leur prêter de l'argent. On leur demande évidemment des rendements super élevés puisqu'il y a du risque, hein, ils doivent payer 10%. En gros, c'est le rendement à peu près là-dessus. En théorie, c'est très illiquide, donc il est censé y avoir des garanties et des sécurités pour pas que tout ça pète à la gueule du système, sauf que les banques n'ont pas pu s'empêcher d'investir là-dedans et que ces entreprises commencent à avoir de plus en plus de mal à payer et que ce dispositif a du plomb dans l'aile. Il y a les dettes étudiantes, toujours aux États-Unis. Enfin là, ce système-là n'est pas purement américain. Par contre, la dette étudiante, c'est un gros sujet américain dont on parlait depuis un bon moment.
De toute façon, spéculer sur les dettes de base, c'est un truc
c'est ça, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et là aussi, donc les dettes étudiantes, en gros, aux États-Unis, comme tout est marchandise et tout est doit être payé, commencer par les études, ça arrive doucement chez nous. Les étudiants se sont largement endettés pour payer les écoles qui leur promettaient d'avoir des postes mirobolants.
Ce que je trouve assez dingue, par contre, c'est que les gens s'achètent et se revendent des dettes et s'assurent sur les dettes, etc.
Oui,
c'est,
oui.
C'est tout un marché autour. C'est
voilà, et donc voilà, la dette étudiante, eh ben, y a plein d'étudiants, enfin de gens qui finissent leurs études et s'aperçoivent que le travail, le boulot mirobolant qu'on leur a promis n'est pas là. Et ils doivent rembourser des sommes colossales. Il y en a même qui s'exilent, hein, ils partent vivre dans d'autres pays, ils savent qu'ils rentreront jamais aux États-Unis. Sinon, la justice leur mettra la main dessus.
Il y en a aussi qui ont enchaîné sur un endettement immobilier aussi, histoire de bien faire.
C'est ça.
Une bagnole, tant qu'on y est.
Oui. Donc l'administration de Biden avait mis en place des mesures pour essayer de... voilà, de